Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord les titres de ce journal. Une dizaine de civils tués la nuit de lundi à ce mardi lors des attaques attribuées aux rebelles des ZDF dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Bilan encore provisoire selon la société civile locale qui livre l'information. Elle demande aux forces armées congolaises et ougandaises de traquer ces assaillants qui insécurisent la population civile dans cette région. Plus de détails dans quelques instants. Le gouvernement congolais prend une série de mesures pour rendre compétitifs ses produits agricoles, dont les cacao, sur les marchés internationaux. C'est le ministre du Commerce extérieur qui l'a dit ce lundi lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Julien Paluku Kaongia est à suivre dans ce journal. L'invité de ce midi est le commissaire supérieur Abeli Mwangu, commandant de la police nationale congolaise, ville de Bounia en Ituri. Il revient sur les mesures prises pour permettre à la population de passer cette période des fêtes de fin d'année dans la quiétude. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal part du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero. Plus d'une dizaine de civils ont été tués la nuit de lundi à mardi lors des incursions attribuées aux rebelles des ZDF dans plusieurs villages du secteur des Bapéré. Selon la société civile locale qui livre cette information, ce bilan est encore provisoire. Cette structure citoyenne demande aux forces armées congolaises et ougandaises actives dans la région d'intensifier les opérations militaires afin de mettre fin à la menace qui constitue la présence des ZDF. Guylaine Kassassia pour Le Point.
Ces rebelles ont attaqué le village de Kili dans le groupement de Boulengia où 8 civils ont été tués. 4 autres civils, toutes 2 femmes, ont été tués dans le village de Mangoya du groupement de Manzia. Ici, la société civile locale parle de plusieurs maisons et de 3 motos incendiées par les assaillants. La société civile du secteur de Bapéré interpelle la coalition phare de CUPDF et plaide pour les opérations d'envergure pour enrayer la menace. Samuel Kaini, son président.
La population est en train de périr. Alors, c'est cette psychose qui est en train de gagner d'espace aux autorités, de prendre cette situation à main. La coalition PDF et FARDC doit travailler parce que si cette coalition reste très passive, automatiquement, il y aura une perte de confiance de la population à l'égard de nos forces.
Pour rappel, dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier, 18 civils ont été tués par les rebelles des ZDF dans cette même région. Le 25 décembre, 3 autres civils ont perdu la vie lors d'une nouvelle attaque attribuée aux mêmes ZDF. En une semaine, ce sont quelques 33 civils qui ont été tués par ces rebelles dans les secteurs de Bapéré. La société civile s'inquiète du silence des services de sécurité qui ne sont pas intervenus lors de ces attaques. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Restons au nord Kivu, où la situation sécuritaire est également tendue ce mardi dans la cité de Sake, 30 km de Goma, territoire de Masisi. C'est après des violents combats qui ont opposé dans la soirée hier lundi le rebelle du M23 à l'armée congolaise et combattant Wazalendo. Selon les sources sécuritaires locales, les rebelles ont lancé des attaques simultanées contre les positions de l'armée entre 17h et 19h locales hier autour de Sake. Des obus largués par ces rebelles soutenus par le Rwanda sont tombés notamment sur la colline Macha, ciblant une position des FRDC et Wazalendo. D'autres ont touché les quartiers Mayutia, quartier Kaduki et village Kimoka. Ces sources parlent en plus d'un renforcement des positions de M23 autour des Sake, ce qui inquiète la population retournée en cette veille de fête de fin d'année. Le gouvernement prend une série de mesures pour rendre compétitifs ses produits agricoles, dont les cacao, sur les marchés internationaux. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a livré cette information ce lundi lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Il a indiqué que le gouvernement est en train de construire des routes de desserte agricoles, les centrales hydroélectriques et intensifier les zones de transformations agricoles. Les propos de Julien Paluku Kaongia, recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Au-delà de ce que nous devons faire ici, 1, de construire les routes, et c'est le plan qui est fait au ministère des infrastructures. 2, de construire les centrales hydroélectriques et trois, d'intensifier ces zones de transformation agricole. Parce que si on a les cafés, les cacao à l'équateur et qu'on n'a pas de possibilité de l'évacuer et de les transformer là-bas, eh bien, nous allons rester sous la coupe de celles qui nous appliquent des sanctions. Donc, il y a quand même un travail important à faire au niveau du gouvernement, et ce qu'on est en train de faire, pour rendre notre cacao compétitif sur le marché international. Nous devons améliorer certaines conditions au niveau interne, les routes, l'électricité, les zones économiques spéciales, qui sont des outils de viabilisation de notre production au niveau international. Et le gouvernement y travaille à travers ses différents ministères. Et donc moi je pense qu'il faut une révolution au niveau africain qui nous permette de changer de paradigme de gestion de nos ressources par la transformation locale, et les chefs d'État l'ont adopté effectivement à Niamey.
L'affaire de l'exploitation illégale des minerais au Sud Kivu par des étrangers chinois sans titre de séjour ni permis d'exploitation continue à défrayer la chronique. Après les cris de détresse du bureau des coordinations de la société civile du Sud Kivu, c'est le tour du mouvement Lucha, lutte pour les changements, de tirer la sonnette d'alarme. Dans sa déclaration signée le 28 décembre à Bukavu, ce mouvement citoyen regrette que les 17 Chinois aient été expulsés du territoire congolais sans en informer les gouverneurs des provinces qui mettaient la pression pour obtenir d'eux les paiements de 10 millions de dollars au compte du Trésor public. Akiza Kiunde Arnold insiste pour que les minerais exploités illégalement durant 4 ans par ces groupes de Chinois reviennent des droits à la province du Sud Kivu. Il est au micro de Jean Kassami.
Nous avons appris, non sans regret, les déshonneurs et la moquerie portée contre le peuple sud-kivoussien dans l'affaire 17 Chinois impliqués dans l'exploitation illégale des minerais à Walungu. Libérés par les autorités de la DGM qui prétendent avoir agi sur instruction de leur hiérarchie, étant donné que dans cette affaire, il y a plus d'aspects que l'on ne sait pas comprendre, la Lucha exige que la justice puisse se saisir du dossier pour que tous ceux qui ont facilité cette évasion soient poursuivis, quel que soit leur rang social, pour mettre fin à l'impunité. Que la DGM puisse restituer dans les comptes de la province du Sud Kivu la somme de 10 millions de dollars que les criminels chinois devaient à la province. Nous exigeons également qu'un contrôle sérieux, sans complaisance, soit organisé dans tous les territoires du Sud Kivu pour traquer les voleurs des minerais du Sud Kivu. Il est temps que toute hiérarchie qui estime être au-dessus de l'intérêt communautaire n'en soit plus une.
Du Sud Kivu, rendons-nous dans la province du Maniema où la dynamique des groupes de peuples autochtones procède à la pré-vulgarisation et à la présentation du contenu de la loi numéro 22030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées en RDC. Pour les porte-parole de cette structure, l'objectif est la prise des consciences de responsables de services étatiques pour la promotion et la protection des droits de ces derniers. On écoute Pasteur Moukou Boakastin au micro de Florence Kizalunga.
Nous devons normalement pré-virgaliser la loi parce que la virgalisation va intervenir l'année prochaine par la grâce de Dieu. Et il fallait prémunir les participants des rudiments de cette loi pour qu'ils comprennent c'est quoi cette loi, quels sont les chapitres de la loi, quels sont les contenus aussi de chaque chapitre. Il fallait que chacun puisse comprendre, comme on le dit toujours dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Il fallait enlever l'ignorance dans les services de l'État, dans les membres de la société civile par rapport à la question des peuples autochtones dans la République démocratique du Congo, qu'ils sachent qu'il y a déjà une loi, la loi numéro 22030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les coups de la loi. Nous attendons auprès de ces agents de l'État et aussi les membres de la société civile la bonne application de la loi. Et en plus, nous leur préparons pour qu'ils soient encore une fois des sensibilisateurs ensemble avec nous pendant la période de la virgalisation proprement dite.
Vous le savez, l'année 2024 s'achève ce mardi à 23h59. Cette année a été caractérisée sur les plans politiques en RDC par la mise en place des nouveaux animateurs d'institutions issues des élections du 20 décembre 2023. En plus de l'installation du nouveau Parlement de la 4e législature, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont dotés de tous les organes capables d'assurer le fonctionnement du Parlement bicaméral. Quel bilan dressé aujourd'hui du travail des deux chambres du Parlement au cours de cette année 2024 qui s'achève, Michel Kifindangoy.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont consacré le premier semestre de cette année à l'installation du nouveau Parlement, à l'élaboration des règlements intérieurs des deux chambres, ainsi qu'à l'élection des bureaux définitifs de la Chambre basse présidée par Vital Kamerhe et celui de la Chambre haute par Jean-Michel Samalukonde. Au cours de la session de septembre, les deux chambres du Parlement ont doté le pays de la loi portant reddition des comptes 2023, du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Outre ces matières prioritaires pour cette session budgétaire, les deux chambres du Parlement ont aussi voté plusieurs lois de prorogation de l'état de siège et de ratification de certains accords de financement. Sur le plan de contrôle parlementaire, les deux chambres ont auditionné plusieurs ministres pour répondre aux questions orales avec débat. L'Assemblée nationale a particulièrement examiné les rapports de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les embouteillages et les constructions anarchiques présidée par Augustin Matata-Ampogno. La motion de défiance visant le ministre des Infrastructures et Travaux publics n'a pas été examinée.
Entre-temps, les bilans de la session de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de la Tchopo est largement satisfaisant. Plus de trois quarts des matières inscrites au programme ont été examinées. Les rapporteurs de cet organe délibérant l'a déclaré hier lundi lors de la présentation de son rapport à l'occasion de la clôture officielle de cette session. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment le gouverneur de province et les membres de son gouvernement provincial, les députés, le représentant des États de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que les membres de la société civile. Un reportage de Jacques Moukonkole.
La session de septembre est essentiellement budgétaire, a rappelé le président de l'organe délibérant. Mathéus Kangalondimo précise que l'édit contenant le budget pour l'exercice 2025 a été adopté. Il en est de même d'autres matières importantes.
Il y a eu le vote du budget rectificatif pour l'exercice 2024. Nous avions également examiné et adopté. Il y a eu la dotation de l'Assemblée provinciale que nous avions eu à examiner et adopter. Mais il y a eu aussi plusieurs autres moyens de contrôle qui ont été exercés au début de la session.
Outre les missions de contrôle parlementaire effectuées par les députés provinciaux, le président évoque quelques voyages entrepris à l'étranger, notamment sa participation à la réunion des régions francophones à Paris et au dîner sur la paix en RDC organisé à Washington aux États-Unis d'Amérique. Tout en partageant ce bilan, le député provincial Ismaël Bolongué demande à l'exécutif provincial de pouvoir appliquer les recommandations qui ont été formulées pour le bien de la population.
Nous avons demandé à l'autorité provinciale de signer l'accord avec le service national pour le transfert de tous ces koulounas pour qu'ils soient transformés en bâtisseurs dans les jours à venir.
Ces recommandations sont relatives également à la voirie urbaine et à l'urbanisme et habitat. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le chef de l'État a bouclé hier lundi par Tchikapa son itinérance, voulais-je dire, dans le Kasaï après Kananga et Mbujimayi. Partout où il est passé, Félix Tshisekedi a visité certaines infrastructures en promettant que tous les travaux vont s'achever avant la fin de son deuxième mandat. À Tchikapa, la société civile locale a salué ces passages du chef de l'État pour palper du doigt les réalités. Mais elle déplore le fait que le président n'a pas visité la route Tchikapa-Kandja. Voie économique d'espoir pour le Kasaï. Un œil doit être ouvert sur les travaux en cours sur cette route avec l'entreprise d'exécution, alerte Gilbert Ngoy. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
On a parlé de l'eau, on a parlé de route, et quand on parle route au Kasaï, vous allez comprendre que les différents chefs-lieux de territoire ne sont pas connectés aux chefs-lieux de la province. Les routes de dessert agricole, n'en parlons pas. Il se pose de véritables problèmes pour la connectivité des centres de production aux centres de consommation. Au-delà de ça, route Tchikapa-Kandiaji, les projets de construction est confié à Toa Investment, la population est vraiment dubitative sur la réalisation de ces projets. Quand on sait que Towa Investissement n'a laissé que de la boue sur la route Kalambambouji. Et déjà, les débuts, quand vous regardez la qualité des caniveaux, ça ne donne vraiment pas espoir.
Dans la province de Sankourou, plusieurs familles vivent sans abri après la pluie diluvienne qui s'est abattue dimanche soir dans la ville de Lusambo. Aucune assistance n'est organisée en faveur des familles sinistrées. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les sources sur place affirment que la pluie diluvienne a surpris les habitants dans la soirée de dimanche. Elle était accompagnée de l'orage qui a arraché plusieurs arbres. Les mêmes sources précisent que des murs des maisons se sont également écroulés et des toitures des maisons emportées. La nuit de dimanche à lundi n'a donc pas été paisible pour plusieurs familles sinistrées. L'Otape, père d'une famille sinistrée au quartier Kabondo, dit avoir passé la nuit chez son voisin avant d'éparpiller ses biens de valeur dans des familles amies. Les sinistrés lancent un cri d'alarme auprès des autorités pour une assistance humanitaire. Tous nos efforts pour joindre les autorités locales de Lusambo se sont avérés vains. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, la prolongation de la transition semble désormais inévitable. Cette situation suscite des inquiétudes parmi les forces vives et la population qui appellent à un retour rapide à un gouvernement civil et à la tenue des élections. La transition militaire entamée le 5 septembre 2021 avec le renversement d'Alpha Condé devrait théoriquement prendre fin ce mardi 31 décembre selon un accord conclu entre les militaires du CNRD au pouvoir et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cet accord visait à établir un calendrier pour la fin de la transition et le retour à un gouvernement civil. Toutefois, 3 ans après la prise du pouvoir par le militaire, aucun calendrier électoral n'est disponible.
L'invité.
Notre invité est le commissaire supérieur Abeli Mwangu, commandant de la police nationale congolaise, ville de Bounia, dans la province de l'Ituri. Il s'exprime sur les mesures prises pour permettre à la population de passer cette période de fête de fin d'année dans la quiétude. Le commissaire supérieur Abeli Mwangu s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Colonel Abeli Mwangu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quel bilan faites-vous de la situation sécuritaire dans la ville de Bounia cette fin d'année 2024?
Je peux m'en réjouir et que la situation sécuritaire dans la ville de Bounia en cette année 2024 a été relativement calme, mais nous sommes bien comportés pour sécuriser nos populations dans la ville. Il y a eu moins de cas de banditisme urbain, sauf que nous avons connu quelques cas en début du mois de juin, juillet, août, où il y a un groupe de malfrats venus d'un pays étranger qui sont venus ici avec leur mode opératoire, juste pour dévaliser les banques et ainsi de suite.
Nous observons un regain des criminalités depuis le mois de novembre. À quoi attribuez-vous cette situation?
Oui, depuis le mois de novembre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, comme vous le savez, beaucoup de gens se préparent à la fête. Pour préparer les festivités, il faut avoir l'argent. Alors, cela est dit aussi essentiellement dans la ville de Bounia. Nous subissons les conséquences des opérations militaires qui se déroulent dans les territoires de Djougou. Et beaucoup de miliciens qui ont fui les combats là-bas se sont déversés dans la ville de Bounia. Tout simplement parce que suite à la complicité de certaines populations qui ne veulent pas dénoncer, alors ces malfrats armés dans la ville, en tenue civile, ont causé beaucoup de cas. Je peux m'en réjouir, vous dire que au courant de cette année, nous avons déféré devant l'autorité judiciaire de l'auditorat plus de 100 criminels que nous avons arrêtés, une dizaine d'armes, une grande quantité de chanvre à fumer. Et dans la ville de Bounia, à 90%, nous avons démantelé le fumoir de chanvre.
Quelles sont les dispositions prises pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens à cette période de fête de fin d'année?
En cette période, généralement, nous renforçons nos effectifs en ce qui concerne la patrouille, c'est-à-dire les tournées, la patrouille et les tournées, nous renforçons les effectifs. Alors, des dispositions sont prises telles que, d'ici là, nous allons déployer les policiers dans les pré-chauds. Comme vous le savez, nous le faisons tous les jours. Et les services de sécurité ont été activés pour, enfin, de rechercher les criminels. Voilà pourquoi nous demandons à la population de nous aider à dénoncer. Et la population doit être vigilante.
Alors, Abeli Mwangu, un numéro vert mis gratuitement à la disposition de la population par la MONUSCO est disponible. D'abord, pouvez-vous les rappeler à nos auditeurs et auditrices, puis expliquer comment il fonctionne?
Nous demandons à la population de bien exploiter les différents type d'alerte. En ce qui concerne les alertes, il y a des sifflets. Il faut parfois alerter par sifflet, par tambour, par alarme, par vuvuzela, comme vous le savez, il y a des cloches. Mais pour le numéro vert opérationnel pour la police, est celui-ci. 081 10 50 013. Je reprends. 081 10 50 013. Et pour le numéro vert de Forces armées de la République démocratique du Congo, c'est 081 065 11 78. Je reprends, 081 065 11 78. Alors, vous pouvez aussi appeler différents numéros des commandants des unités, soit de la police et FADC et des autres services de sécurité si vous voulez avoir une intervention urgente. Alors, nous demandons à la population que d'éviter aussi les tapages nocturnes. Il y a le tapage, la pollution sonore, et le pétard en cette période. Tout ceci pour éviter à ce que les services de sécurité ne soient pas distraits.
Dans la lutte contre l'insécurité urbaine, quelle est justement la contribution de votre partenaire, la MONUSCO?
Oui, en ce qui concerne la contribution de notre partenaire, la MONUSCO, nous apprécions à sa juste valeur l'accompagnement et l'assistance de la MONUSCO dans sa section Louis-N. Paul, c'est-à-dire la police de la MONUSCO. Nous effectuons des patrouilles mixtes ensemble, oui, pour sécuriser la ville des Bougnes. Et aussi dans la ville, en cas d'incendie, nous recourons souvent aussi à notre partenaire de l'UN Paul. C'est ici où, au nom du commissaire provincial, le général Ngoï Sengeloa, nous adressons nos remerciements à ces partenariats entre la police nationale congolaise et la MONUSCO à travers sa section de l'UN Paul.
Colonel Abeli Mwangu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité sur Radio Kapi, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinge et Vicky Odjambala. Billy Landry Betou a assuré sa mise en onde à la présentation. Patience Galula Mbombo, retrouvée à partir des 13h, heure de Kinshasa, Noëlla Luzitu Kabambi pour la suite. Merci à vous tous de nous avoir suivis.